Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
On est très heureux de recevoir cette semaine sur Zero to One Emmanuel Strachnov, fondateur et CEO de Bubble, la fameuse plateforme no-code qui permet de développer des SaaS et software en ligne sans une ligne de code. Après avoir levé 100 millions de série A en 2021, Bubble fait face au défi de croissance et de marché, notamment avec l'effervescence des LLM et la compétitivité de nombreux produits qui en découlent. On va parler de tout aujourd'hui, mais surtout des débuts, de l'avenir de Bubble, de l'IA et découvrir Emmanuel et son histoire. Donc, salut Emmanuel, comment ça
salut.
Va?
Très bien.
Merci beaucoup de nous accorder ton temps sur ce podcast. Donc, plein de choses à aborder. On aime bien commencer par le background de nos guests. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Emmanuel Strachnov, français. Je suis né à Paris il y a un peu plus de 40 ans, un peu plus de 40 ans maintenant. Et après, j'ai grandi en Normandie toute mon enfance, à la campagne. Ce qui a eu un certain impact sur les choses parce que j'ai commencé à programmer et à faire du code en fait quand j'étais en Normandie parce que je n'avais pas grand-chose à faire à la campagne. Et après, j'ai fait mes études à Paris de façon assez traditionnelle, des études pré-françaises, préparées, école d'ingénieur, ces choses-là. Je suis parti en Chine quelques années et c'est en Chine où j'ai envie de dire les choses se sont un peu sorties de route au sens où j'avais pas du tout prévu d'aller vivre aux États-Unis dans ma vie. J'avais pas un intérêt très fort pour le pays et puis la Chine m'a fait découvrir les États-Unis de façon un peu indirecte. Je suis venu aux États-Unis pour la business school et je suis resté. Et donc c'était il y a 14 ans maintenant et donc je suis aux États-Unis depuis 14 ans, à New York en ce moment.
Est-ce que, y a un moment marquant dans ta jeunesse qui t'a poussé à être ce que tu es aujourd'hui, en dehors de la Normandie et d'apprendre à coder tout seul?
Non, je pense pas qu'il y ait un événement fondateur dans les choses. Enfin, on peut toujours raconter l'histoire après coup. Par exemple, quand j'avais 13 ans, je programmais des petites c'était des disquettes, des petites disquettes, hein, ça remonte à longtemps, hein, que je vendais à mes camarades de classe pour apprendre les mots d'allemand, parce qu'on avait une prof d'allemand qui était très stricte, et donc j'avais gagné un peu de sous comme ça. Donc, je pourrais raconter une histoire a posteriori en disant, c'est là que la fibre entrepreneuriale m'est venue, mais c'est pas vrai, en fait. C'est plutôt la continuation naturelle. C'est ce que je fais aujourd'hui est un peu la conséquence de pas mal d'influences en fait qui ont lieu sur une dizaine d'années, je dirais entre 19 et 29 ans, parce que j'ai commencé la boîte à 29 ans. Et c'est pas un événement particulièrement fort, mais la Normandie en fait partie, parce que c'est là que j'ai découvert un peu la technologie d'une certaine façon. Mais je l'avais totalement perdu de vue en fait. Enfin, quand j'étais en école, je voulais être fonctionnaire. J'étais très français. Et puis maintenant, je ne le suis pas. Mais par certains côtés, ce qui m'intéressait, par exemple, avec la fonction publique, quand j'étais en école, était cette idée de travailler sur des problèmes qui peuvent avoir un impact sur le plus grand nombre. Et je pense que ça reste vrai d'ailleurs. Quand on est fonctionnaire en France, par définition, on impacte la vie de 65 millions de Français. Alors après, la question, est-ce que l'impact est fort? Est-ce qu'il est direct ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais par contre, l'impact est fort. Et ce qui m'a intéressé, et je pensais pas du tout à la technologie pendant très longtemps. Et quand je suis arrivé en business school et que j'ai commencé à regarder ça, j'ai redécouvert en fait le truc assez excitant de la technologie qui est qu'on peut impacter des millions de personnes en fait depuis son laptop. Et donc là encore, ce que je fais aujourd'hui n'est pas une conséquence de vouloir être fonctionnaire, mais les choses qui m'avaient intéressé à l'époque là-dessus sont les mêmes choses qui m'intéressent, qui m'ont amené à faire Bubble aujourd'hui. Donc c'est encore une fois voilà, c'est plutôt une conséquence de pas mal de petites influences dans ma vie, de rencontres. Une en particulier, parce que j'ai rencontré mon associé et on s'est associé et on a fait la boîte ensemble. Donc, ça, c'est un truc vraiment très fondateur. Évidemment, la boîte ne serait pas là sinon. Mais c'est, non, encore une fois, pas un événement particulier. Non.
D'accord. Et tu as mentionné que tu es parti en Chine après tes études. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé pour aller en Chine. Et on parle surtout des années 2006-2007, où c'est pas la Chine de nos jours. Qu'est-ce qui t'a motivé, entre guillemets, pour...
C'était le bon moment pour aller en Chine, je pense. À ce moment-là, c'était sympa. Moi, c'est très simple. Je voulais faire des choses un peu différentes. Je fais partie de la génération où tout le monde allait faire de la finance à Londres ou à New York, essentiellement. Et je n'avais pas envie vraiment de faire ça. Je voulais faire quelque chose. Encore une fois, je pensais être fonctionnaire. Donc, déjà, il fallait que je fasse quelque chose qui soit accepté par le ministère dont je dépendais à l'époque. Et donc, je leur avais vendu la Chine. Et pourquoi? Donc, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Et pourquoi la Chine? Parce que mes parents se sont rencontrés là-bas, en fait. Donc, on a la famille, ma famille est assez sinophile au sens où mes deux parents, qui ne sont pas chinois, parlaient chinois, ils se sont rencontrés à Pékin, mon père a fait ses études à Taïwan quand il avait 18 ans pendant 5 ans, donc des trucs un peu forts dans la famille. Donc je voulais trouver quelque chose de différent, j'avais déjà été en Chine petit, j'avais déjà commencé à apprendre la langue, donc c'est un endroit assez naturel pour moi pour aller. Et après 2007, même je commençais à y aller en 2005 plus régulièrement, enfin je suis allé en 95 avec mon père, ça remonte à j'étais petit, mais après 2005, 2000, 2005-2010. Oui, la Chine n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, mais c'était vraiment la Chine qui s'ouvrait au monde avec une certaine liberté en fait par rapport à ce que la Chine est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment la Chine s'ouvre sur le monde. Il y avait les Jeux Olympiques qui arrivaient, l'Expo de Shanghai en 2010. Donc c'était un moment génial pour être là-bas.
Okay.
J'ai appris. Alors, j'ai pas forcément déjà à l'époque, je pensais pas du tout à la technologie. Puis alors aujourd'hui. La Chine est très active dans la tech, mais c'est très séparé du reste du monde. Donc, la Chine, c'est pas du tout un pays avec lequel on travaille aujourd'hui. On est quasiment dans tous les pays du monde, sauf la Corée du Nord, la Chine, quelques pays comme ça. Par contre, ce que j'ai appris en Chine, parce que je parlais relativement bien en arrivant, mais j'étais pas bilingue, et en particulier, je faisais du conseil en strat, donc conseil en stratégie. C'est un petit peu intense, il faut quand même comprendre ce qui se passe autour. Et donc, de pouvoir gérer le fait de ne pas tout comprendre, mais quand même de pouvoir travailler dans un environnement un peu de pression, où il y a de la pression, m'a beaucoup servi après dans l'entrepreneuriat. Parce que, bon, je pense que quand on lance une boîte, on ne comprend pas toujours tout sur ce qui se passe, parce que par définition, on est tout petit par rapport à des choses plus grosses autour de soi, donc on part de rien. Et ça m'a appris. En Chine, j'ai appris pas mal de choses pour faire ça.
Et tu avais déjà travaillé avec des Chinois ou est-ce que tu as appris à collaborer
Ah ben
avec...
non, c'était mon premier job de toute façon, donc je n'avais aucune expérience, mais j'étais un junior, j'étais le seul junior non chinois de la boîte pour laquelle je travaillais pour une boîte qui s'appelle Roland Berger, donc un des grands cabinets occidentaux de conseil, mais en Chine, il s'avère que c'est très local, comme les autres d'ailleurs, comme McKinsey ou BCG, enfin, comme toutes ces boîtes en fait. La plupart des boîtes ne voulaient pas même d'étrangers, parce qu'ils disaient ça ne nous sert à rien de prendre quelqu'un qui ne parle pas chinois nativement. Ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Donc, moi, j'ai eu de la chance en fait. Je suis passé entre les mailles du filet. Mais du coup, j'étais le seul non-chinois au milieu d'une quinzaine de Chinois qui sortaient de l'université pour faire du conseil. Et c'était génial.
Ok, super intéressant. Et du coup, tu nous as raconté que de base, tu voulais être fonctionnaire. Au final, tu as fait un peu de conseil en Chine. Comment est-ce que l'entrepreneuriat t'est tombé dessus, du coup?
C'est vraiment le cheminement de la business school en fait. C'est un
Super.
truc que les Américains font assez bien. Moi, encore une fois, j'étais très français, donc je n'avais pas forcément une vue très positive de tous les programmes de MBA ou des choses comme ça. En France, on a un peu tendance à dire l'important, c'est les sciences dures ou les choses comme ça. Et les Américains, ils parlent beaucoup, ce qu'on appelle les études de cas ou des choses comme ça, qu'on fait un peu plus dans des écoles de commerce, mais même avec un point de vue assez français. Aux États-Unis, ils sont vraiment c'est une expérience qui va changer votre vie et vous allez découvrir votre. Truth self, comme on dit en anglais, à travers un programme. Enfin, c'est ce que moi j'étais à Harvard, en gros, c'est ce qu'ils disaient. Et donc, au début, j'étais là, bon, on va voir. Et dans les faits, c'est un peu ce qui se passe. Il faut reconnaître que il y a plusieurs choses qui font que ça arrive. Déjà, alors moi, je l'ai fait relativement tard dans la vie. C'est-à-dire que je commençais mon MBA à 27 ans. La plupart des gens maintenant aux États-Unis le commencent à 24, 25 ans, ce qui, je pense, est un peu trop jeune. Mais du coup, 27 ans, on a un peu de recul. C'est une période, en gros, de 2 ans. Où il y a de la pression pour trouver un job. Alors après, je pense qu'il y a des gens qui se mettent la pression parce qu'ils veulent le job que tout le monde veut à la fin. Mais moi, c'était pas vraiment mon approche. Moi, c'était vraiment dedans. Je me suis dit, je vais prendre mon temps. Je vais pas de. C'est là d'ailleurs, je pense, où le fait d'être un peu plus vieux aider. Je vais pas me précipiter pour trouver un job. Je vais parler avec un maximum de gens. Donc c'est génial parce que concrètement, on a 2 ans. On peut perdre un peu son temps. Personne ne va dire qu'est-ce que t'as fait pendant 2 ans à Harvard. T'as perdu ton temps. Mais dans les faits. Là où je dis que j'ai perdu mon temps, c'est par exemple, j'ai fait un stage dans la mode pendant mes 2 années de business school. Ça n'a absolument aucun sens dans mon histoire, dans mon CV, mais c'était génial. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert des gens différents. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, c'est ce stage-là qui m'a amené vers la technologie. Mais bon, ça, on peut en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, pendant 2 ans, j'avais du temps pour parler à des gens. C'était le début, donc c'était 2010-2012, donc c'était un peu le début de ce que j'appellerais la nouvelle ère des startups, ce moment où Facebook commençait à aller rentrer en bourse, c'est-à-dire Facebook est rentré en bourse en 2010, en 2012, même le film Social Network, qui a un peu été le premier film à propos je pense, d'une grosse boîte de tech que tout le monde connaissait, parce qu'il n'y a pas eu de film comme ça sur Google ou Amazon, Ça fait que sur les campus américains, on a vraiment commencé à parler plus de startups. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce monde-là. Encore une fois, je ne connaissais pas du tout en France d'ailleurs. Maintenant, l'univers entrepreneurial français, des startups françaises est beaucoup plus actif. Mais en 2010, il n'y avait rien. Enfin, moi, dans ma promo en école d'ingénieur, à l'époque, il y en avait peut-être deux qui avaient lancé des boîtes. Maintenant, il semble que je suis dans une promo. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des startups, qui ont lancé des startups, mais qui sont tous lancés plus tard. Pour la plupart, hein, plutôt après 2010. Mais à l'époque, donc, il n'y avait rien, donc je n'étais pas du tout exposé à ça. Et donc voilà, donc c'est beaucoup de rencontres. Le fait de pouvoir prendre du temps, le fait de commencer à travailler sur une idée avec quelqu'un que j'avais trouvé au MIT, parce qu'à l'époque, j'avais arrêté de coder à 21 ans, je n'avais jamais repris, en fait, donc je ne pensais pas redevenir codeur. Et donc j'avais commencé à travailler sur des idées autour de la mode, d'ailleurs, en me disant, tiens, est-ce qu'on ne peut pas lancer une app qui n'aurait jamais rien donné? Mais en faisant ça, j'ai redécouvert un petit peu le plaisir de créer des produits. De réfléchir à des produits digitaux, que ce soit des apps, des sites, des choses comme ça. Donc, c'est ce cheminement assez progressif qui m'a amené à la fin de l'école. Donc, j'ai eu mon diplôme au mois de mai 2012, sans job. Je m'étais dit que je ne prendrais pas de job avant décembre, en fait. Je m'étais dit que je vais encore prendre 6 mois où, en vivant de façon assez frugale, on peut tenir en dépensant 2 000-3 000 par mois, juste pour être sûr vraiment que je ne me plante pas. Je me disais, si là, je me plante sur le prochain job que je prends, et que là où je dis que je me plante, c'est pas que c'est le job se passe mal, mais c'est que c'est pas vraiment ce que je veux faire. C'est dommage, quoi. Je vais être un peu malheureux. Personne, parce qu'à l'époque, je me disais quand même, les gens vont regarder mon CV, personne ne va me reprocher d'avoir pris un job en décembre et pas en juin après la business school. Personne va regarder même. Alors que parfois, de prendre 6 mois de trou entre deux jobs, là, il faut plus l'expliquer. Donc là, je m'étais dit, là, il y a une bonne opportunité. Et puis finalement, 3 semaines après le diplôme, j'ai rencontré mon associé, on s'est associé la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai commencé à bosser le lundi d'après. Donc, il faut être ouvert aux opportunités. Il y a des moments, des opportunités qui se présentent, qu'il faut attraper. Mais tout ça était vraiment. Je vais prendre mon temps et je vais voir où est-ce qu'il y a des atomes crochus naturels.
C'est anodin du coup parce que tu as quand même pris 2 ans pour toi et tu rencontres quelqu'un une semaine après, tu lances une boîte avec lui.
C'est même pas une semaine, c'est même pas une semaine après. C'est vraiment, on s'est associé sur notre premier café, parce que c'était un moment où il y a quelqu'un d'autre qui, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'offrait un job et je commençais à me dire peut-être que je devais le prendre parce qu'il s'occupait de ma green card, parce qu'aux États-Unis, c'est un sujet
Ouais.
quand on n'a pas de green card au début. Maintenant, je me stresse moins pour ça, mais à l'époque, c'est un sujet un peu stressant. Donc, je ne sais pas si j'aurais attendu jusqu'à décembre. En fait, j'aurais peut-être, disons que d'attendre jusqu'à décembre, c'était le plan initial, puis finalement, fin juin, j'étais là, bon, peut-être que je vais apprendre quelque chose, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré George, et du coup, on a essayé de s'associer très vite, mais oui, non, mais et avant ça, j'avais eu peut-être 3 ou 4 offres de boulot, mais de tout, hein, de L'Oréal, des non-profits, enfin, j'avais vraiment tiré dans absolument tous les sens, la banque aussi, évidemment, des fonds, j'avais tiré un peu dans tous les sens, mais il n'y avait jamais rien où je m'étais dit, ah, ça, là, je suis vraiment content, et puis là, quand ce truc-là est arrivé, je me suis dit, bon, ça a l'air bien, et puis bah, 12 ans plus tard, je fais toujours ça, quoi.
Du coup, comment ça s'est fait? Est-ce que, du coup, si j'ai bien compris, c'est ton associé de base qui est venu un peu avec une première ébauche et vous avez décidé de travailler sur l'idée de Bubble ou comment ça a commencé
C'est
Bubble?
ça, exactement.
Ok.
Alors, ça s'appelait pas Bubble, le produit ne faisait pas grand-chose, mais ils avaient un petit prototype. Il avait déjà, alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le produit, donc c'est une plateforme qui permet de créer des sites, des web apps et bientôt des applications natives d'ailleurs, parce que c'est sorti sans code. Et un des trucs assez différents qu'on a par rapport à quasiment tous les autres, c'est ce système de workflow, où on va dire, quand l'utilisateur clique ici, puis il y a plusieurs actions, et on peut mettre autant d'actions qu'on veut et elles sont exécutées en séquence. Et ça, Josh l'avait déjà en fait. En fait, ça a été le premier truc qu'il a construit avant de construire le reste de l'outil. Et c'est un peu là, je connaissais pas du tout l'espace, j'avais jamais réfléchi à cet espace-là. Donc j'étais impressionné sans savoir en fait, parce que je regardais pas. Mais dans le fait, c'était assez impressionnant parce que personne ne le fait comme ça. Même aujourd'hui, on est un peu les seuls avec cette approche-là. Et on est les seuls avec ce niveau d'abstraction en fait. Je pense qu'il y a un risque quand on fait ce genre de choses d'aller trop bas et du coup, ça ressemble plus au code ou trop haut et ça fait rien. Et je pense qu'on a trouvé un niveau d'abstraction assez optimal. Et ça, Josh l'avait déjà. Et donc c'est ça où je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal, c'est mieux que juste un website builder, parce qu'au début, c'est un peu ce que Josh m'avait pitché, alors qu'en fait, je pense que c'était pas la bonne façon de pitcher. Et du coup, voilà, il a amené ça, et puis on a commencé. J'ai dit oui, je suis rentré à Boston vendre mes meubles et rendre ma chambre, et puis je suis redescendu à New York et on a commencé la boîte, quoi.
D'accord, du coup, c'était là, tu viens de décrire la première version, mais ça me semble un peu compliqué, surtout quand tu n'as pas fait de code depuis 21 ans. Est-ce que tu comment tu t'es comment tu as fait pour comprendre un peu comment ça marchait, pour vraiment essayer de comprendre le business model et
Alors,
ton grain de.
il y avait pas de business model au début. L'avantage des produits comme ceux-là, c'est que c'est tellement technique à la base qu'on ne se pose pas trop la question de comment on va gagner de l'argent. Enfin, il nous a toujours paru évident qu'on gagnerait de l'argent si on arrivait à bien le faire, parce que coder, ça reste pénible. Si tu peux faire que les gens ne codent plus, ça a forcément de la valeur. Après, la question, c'est comment tu monétises. Encore aujourd'hui, je pense qu'on a du travail à faire là-dessus, mais tu gagneras forcément suffisamment pour que la boîte survive, je pense. Alors, au début, quand j'ai rejoint Josh, je n'étais pas censé coder à la base. C'est pour ça qu'il m'avait proposé de le rejoindre, parce que je sortais de business school. Donc, il s'est dit qu'il avait besoin d'un business co-founder pour faire quelque chose, pour faire une boîte. C'est ce qu'on appelle ensemble sa double erreur, parce que c'était une erreur de penser ça. C'est-à-dire que notre produit est tellement technique que, franchement, il n'y avait pas beaucoup de business à faire au début, à moins de commencer vraiment à juste faire du recrutement et lever de l'argent. Et ça, ce serait, je ne sais pas si on en parlera, mais. On n'a pas levé d'argent pendant 7 ans, et je pense que même si c'était sans doute un peu trop long, c'était une bonne chose de ne pas lever d'argent au début. Donc sa première erreur était de penser qu'il avait besoin de quelqu'un qui était business. La deuxième erreur était de penser que je l'étais, parce qu'en fait, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que déjà, j'avais rien à faire, concrètement, si on ne levait pas d'argent, et que là où j'avais un intérêt assez naturel pour le produit, et en particulier tout ce qui est UX. Donc la façon dont. Le truc un peu particulier de notre histoire, c'est qu'on a été que deux pendant 5 ans. Ce qui est assez rare. Des boîtes qui ne lèvent pas d'argent, il y en a plein, mais des boîtes où il n'y a que deux fondateurs pendant 5 ans, ça c'est un peu plus rare. Et donc la façon dont on séparait le travail, c'est que lui s'occupait de l'infra, et de tout, base de données, tout le back-end, des choses comme ça. Et moi, j'étais plus vraiment sur la création du produit, et donc créer l'outil que les gens utilisaient, quoi. Et c'est là où, en fait, où je pense que là où j'ai le plus de choses à apporter, ce que j'aime le plus faire. Donc, assez naturellement, je me suis revenu. Comme on n'avait pas de pression d'investisseur, parce qu'on n'avait pas levé d'argent, j'ai pu prendre le temps de réapprendre à coder. Donc, ça m'a pris 3-4 mois pour être un peu efficace. Lui m'a appris des trucs aussi. J'ai été acheter des livres. C'était un peu le vieux monde. Je n'étais pas sur Internet à l'époque. J'avais été acheter des livres pour le JavaScript, des choses comme ça. Et puis, j'ai commencé à être efficace sur la Codebase en novembre-décembre.
Et du coup,
Donc, 4-5 mois après.
pardon, et comment que vous avez fait en fait sans lever de fonds? Si je comprends bien, vous avez passé quand même la majeure partie de votre temps à développer le produit. Est-ce que vous vous êtes dit on se laisse 6 mois, 1 an, 5 ans pour développer le produit et on focus tout sur la tech et ensuite on verra? Ou comment vous avez fait pour vous dire, OK, on va développer un truc, on va peut-être passer du temps sur ça et on verra après pour le business model?
Je pose un peu, parce que je c'est jamais vraiment donné de timeline. Enfin, on a fait vraiment ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que quand on lance une boîte, normalement, on dit qu'il faut se donner quand même se donner une date pour voir comment les choses marchent et tout. Mais on s'est jamais dit, bon, bah, si on fait ça encore pendant 6 mois, 2 ans, et puis si à ce moment-là, si à ce moment-là, on n'a pas les résultats escomptés en termes d'utilisateurs ou de revenus, c'est-à-dire que ça marche pas ou des choses comme ça. On en a vaguement parlé, on n'a jamais. On s'y est jamais tenu, en fait. C'est ça le truc. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément là, une bonne chose à faire. Il se trouve que, bah, dans notre cas, ça a marché, parce qu'aujourd'hui, je suis assez content de là où on est. Et on a créé quelque chose qui est utile et qui a de la valeur. Et ça ne serait pas arrivé si on avait tenu les deadlines dont on avait parlé. Ce qui nous a fait continuer, c'est que, même si, bon, on faisait surtout de la technologie, on avait quand même quelques utilisateurs qui n'étaient pas nombreux. On avait des. En 2013, c'était peut-être une dizaine ou une vingtaine d'utilisateurs. 2014, peut-être que 200, 2000, fin 2015, où on a fait notre premier lancement public sur Product Hunt à l'époque, là, ça a été un peu plus. Là, on commençait à avoir quelques milliers d'utilisateurs. Donc, ça commençait à devenir plus genre ce qu'on imagine être une startup. Et qu'est-ce que je veux dire? Les quelques utilisateurs qu'on avait, donc on en avait très peu, étaient extrêmement motivés. C'est-à-dire qu'ils étaient sur l'outil déjà à l'époque, et pourtant, il n'était vraiment pas beau. Il y avait plein de problèmes, plein de bugs et tout. Ils étaient sur l'outil 10 heures par jour. C'est-à-dire qu'ils construisaient leur startup chez nous, ils faisaient ça toute la journée. Et donc, on avait quand même l'impression déjà de faire quelque chose d'utile. On voyait vraiment l'impact. Et surtout, quand on a tellement peu d'utilisateurs comme ça devient un peu personnel. C'est-à-dire on se connaissait. Il y en a que j'ai rencontré après, il y en a que j'ai jamais vu. Mais on se parlait sur Skype tous les 2 jours. Donc, on commence à se connaître. Ils nous payaient un petit peu, je sais pas, 50 balles par mois, un truc comme ça. Vraiment, on travaillait ensemble sur leur startup, en gros. Enfin, les deux projets étaient assez rejoints. Et du coup, on avait cette dopamine que quand on déployait une nouvelle feature qui était sympa, les gens l'aimaient beaucoup et on voyait l'impact que ça avait sur eux et tout ça. Et du coup, c'est ça qui nous a fait continuer, en fait. C'est là où je parle de dopamine, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une certaine addiction, je pense, à shipper des produits que les gens aiment utiliser. Et pour ça, il n'y a pas besoin de millions d'utilisateurs, en fait, hein. S'il y en a 5, mais que les 5, on leur parle beaucoup et qu'ils adorent et qu'ils le disent, on a reçu des bouteilles de vin, on a reçu des chocolats, enfin, on a vraiment eu des trucs assez uniques, je pense, dans une histoire de boîte, précisément parce qu'on n'était que deux, qu'on n'avait pas levé d'argent et qu'on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne reçois plus de bouteilles de vin vraiment de la part de nos utilisateurs, j'aimerais bien, mais plus de chocolat. Et c'est ça qui nous a fait continuer, en fait. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il soit le genre de choses à reproduire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai risque de pousser trop longtemps une idée pour que ça ne marche pas, parce que, in fine, ça peut. Bah, c'est quand même 10 ans de sa vie ou 5 ans, c'est assez long. Et donc, il y a un coût. Plus ça va, plus le coût d'opportunité est élevé. Je pense que quand on lance une boîte, les 2 premières années ne coûtent pas. C'est-à-dire que si au pire, si ça ne marche pas, une expérience entrepreneuriale de 2 ans, ce sera toujours bien valorisé. 5-6 ans, c'est plus compliqué, parce que 5-6 ans, il y a toujours une expérience entrepreneuriale, mais il n'y a que ça pendant que les autres ont fait des choses et ils ont progressé dans leur carrière. Donc là, il y a un peu plus de risques. Et j'ai vu des gens pour qui ça a pu mal se passer. Dans notre cas, ça s'est bien passé, mais ça s'est bien passé parce qu'il y a eu une infection en 2019 et après 2021, que s'il n'y avait pas eu, il aurait été triste. Donc, encore une fois, pas forcément quelque chose à reproduire, mais dans notre cas, ça s'est bien passé.
Et du coup, tu trouves tes premiers utilisateurs sur Product Hunt? Est-ce
Non, non, non,
que...
c'est parce que ça, c'était au bout de 3 ans. On est sur
D'accord.
des. Non, non, on les trouvait dans des meet-up, en fait.
Dans les meet-up, waouh.
Dans les meet-ups, alors ça a commencé en personne dans des meet-ups à New York où les gens cherchaient ce qu'on appelait un technical co-founder ou un CTO pour leur startup et ils ne les trouvaient pas. Et donc on leur disait, non, on ne va pas être votre CTO, mais par contre, on crée cet outil, vous pouvez le faire vous-même. Et après, on a eu un petit peu de bouche à oreille en ligne, en fait. C'est-à-dire que les gens nous ramenaient leurs utilisateurs. Product Hunt est arrivé en 2015, donc au bout de 3 ans et demi après.
D'accord. Et ces utilisateurs que tu rencontrais en personne, à quel point ils ont influencé ta vision? Est-ce qu'à chaque fois qu'ils te donnaient un feedback, tu l'implémentais, tu voulais l'implémenter directement ou...
Oui, sans doute un peu trop d'ailleurs. Alors, ils n'ont jamais impacté la vision parce qu'on était très strict sur les utilisateurs qu'on choisissait. On choisissait des gens qui ne savaient pas coder et qui voulaient créer un produit pour le web pour lancer une startup. Donc, c'était très aligné sur la vision. Donc, on n'a jamais eu de. Si par exemple, on avait trouvé une grosse boîte, ça a failli arriver, hein, des grosses boîtes qui nous contactaient, par exemple, qui voulaient créer des outils en interne, ce qu'on appelle des internal tools, et c'est un marché qui existe où il y a beaucoup d'outils no code, low code. Si on avait rencontré ces gens-là, ça aurait pu changer notre map de façon assez permanente. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil différent. Et on a fait attention de ne jamais prendre des gens qui n'étaient pas alignés avec la vision qu'on avait long terme. En revanche, sur toutes les petites fonctionnalités au jour le jour, on était assez réactifs. Et je pense que c'était la bonne approche parce que quand quelqu'un veut lancer sa startup qui est déjà sur notre outil, qui a déjà commencé à développer, qui nous dit j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité-là, alors. Comme on les connaissait, je leur parlais souvent, parfois, si je leur disais, franchement, ça sert à rien cette fonctionnalité, fais-le comme ça marchera aussi bien, je leur disais. Mais à l'époque, le produit était quand même très limité, donc il manquait plein de fonctionnalités. Donc, ils me disaient, ça, j'ai besoin de faire ça, donc on le rajoutait. Et donc, on l'a fait beaucoup, peut-être un peu trop parfois, c'est-à-dire que je pense qu'on a développé certaines fonctionnalités qui n'étaient pas utiles pour les autres. Et on apprend, et c'est pas grave, quoi. Mais la plupart des choses qu'on a créées étaient bien.
C'est quand même un nouveau marché, du coup, le no-code, parce que c'est vous qui êtes un peu à l'origine, ou je ne sais pas si vous êtes sorti avant ou après Flutterflow, ou Flutterflow arrivé après.
Ah bien avant, bien avant.
Bien avant.
Flutterflow, surtout Flutterflow à la base, c'est un produit c'est du code à la base, c'est
Ouais.
Flutter, c'est un truc de code. Donc, le Flutterflow dans l'itération actuelle, qui est un outil plus visuel sur la base de Flutter pour créer des applications, ouais, je pense à 2-3 ans, genre, pas beaucoup plus.
Ok. Du coup, vous êtes arrivé après, mais ça restait quand même. Enfin, c'est très
On est
nouveau.
arrivé avant.
Enfin, vous êtes arrivé avant, pardon, mais c'était quand même très novateur de créer des apps sans coder. Surtout à cette époque-là, c'était il y a 10 ans.
Alors, ça, j'ai jamais. Alors, c'est là où peut-être qu'on dit que les fondateurs parfois ont une distorsion de la réalité, parce que pour moi, il n'y a absolument aucune innovation dans l'idée de ce qu'on fait. L'innovation de ce qu'on fait, c'est le produit technique qu'on a créé, mais c'est le produit. Mais l'idée de créer des applications sans code, ça existe depuis 1980. Hein. Apple avait un outil qui s'appelait HyperCard qui voulait faire ça. Je pense que l'idée initiale, d'ailleurs, Wix, par exemple, il y avait de ça aussi. Enfin, c'est évident que depuis le début de l'informatique, le code est compliqué, permettre à des gens de faire des choses sans code, et tout le monde a essayé. La question, c'est que personne n'avait réussi, en fait, jusqu'à présent. C'est-à-dire attention, il y a plein de choses qu'on peut faire sans code et qu'on pouvait faire même dans les années 80-90 sans code, La création d'applications au sens application mobile ou application web, genre Airbnb.com ou des choses comme ça, personne jusqu'à présent n'avait réussi à le faire comme nous. Et donc c'est là où il y a une innovation, c'est-à-dire qu'on a poussé. Je pense qu'on était plus patient que la plupart des gens et plus buté. Ça revient un peu à ça, hein, c'est-à-dire vraiment il faut rester sûr. On a quand même. Je dirais qu'il y a peut-être eu 5 ans avant d'arriver à ce que j'appellerais un bon MVP, donc ça a quand même pris du temps. Mais encore une fois, il n'y a aucune innovation sur le concept de ce qu'on fait.
Ouais,
Et
mais
le fait que les gens voient que c'est une innovation fait que je pense que les gens avaient abandonné sur l'idée et pensaient que c'est juste pas possible.
il fallait quand même éduquer les gens. Enfin, moi, je suis
Ah,
arrivé.
bah ça.
Fallait éduquer. Vous avez fait comment, du coup, pour éduquer une masse et convaincre un fondateur de créer sa boîte sur Bubble et pas de faire
Voilà,
pas de dépendre
effectivement,
sur
il
toi?
faut pas éduquer, il faut pas éduquer les gens sur le concept, parce que le concept, tout le monde a déjà entendu. Il faut dééduquer les gens sur le fait que c'est pas possible. C'est-à-dire que pendant les 3 premières années de la boîte, dès que je décrivais ce qu'on faisait, alors au début les gens disaient, bon, c'est Squarespace ou Wix. Alors je disais, non, c'est pas, parce que essayer de faire Airbnb sur Squarespace ou Wix, c'est pas possible. Avec nous, ce sera possible. Alors le deuxième truc qu'on entendait, c'est, ah bah c'est pas possible. C'est juste, ça a déjà été tenté, c'est pas possible. Donc l'éducation qu'on a dû faire a été de dire aux gens, oubliez que vous pensez que c'est pas possible, parce qu'on va vous prouver que c'est possible. Alors évidemment, c'est compliqué, parce qu'au début, c'est possible d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au début, aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait avoir Airbnb.com sur notre plateforme, parce qu'il y aurait des questions de scalabilité sur lesquelles on travaille. Mais en termes de fonctionnalité, on peut à peu près tout faire qu'Airbnb fait sur leur site, dans une application mobile. Mais clairement, ce n'était pas le cas en 2014 ou 2015. Donc, je ne sais pas si ça travaille d'éducation, c'est plus convaincre les gens d'essayer. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que le persona sur lequel on travaillait, qui était les non-technical founders, donc les fondateurs non techniques, étaient une bonne catégorie de personnes parce qu'ils étaient un peu désespérés. Il n'y avait aucun outil pour eux. Il n'y avait aucun ingénieur qui voulait leur parler. C'était vraiment, t'as qu'à apprendre à coder et démerde-toi. Et du coup, c'est une bonne catégorie pour aller voir en disant, bon, bah, écoutez, personne ne veut vous aider. Nous, on veut vous aider. Essayez ça. Il y en a quand même beaucoup qui disaient, non, moi, je vais pas. Mes amis ingénieurs qui ne veulent pas me coder mon application me disent que ce n'est pas possible, donc je ne vais pas vous utiliser. Mais il y en a pas mal qui étaient là, bon, bah, au point où on en est, essayons. Et c'est ces gens-là avec lesquels on travaillait. Après, alors une fois qu'on a lancé et que le monocode a émergé, alors, même si ce n'est pas nous qui l'avons inventé en 2019, là, il y a eu plus d'éducation à faire. Et donc l'éducation à ce niveau-là, c'est plus, OK, les gens parlent du no-code, mais qu'est-ce que c'est que le no-code? Il y a plein d'outils différents, chaque outil fait des choses un petit peu différentes. Aujourd'hui, je ne considère pas qu'on a beaucoup de compétition au sens qu'il faut exactement la même chose que nous, mais il y a plein d'autres outils qui s'appellent no-code. Après, les gens sont un peu perdus en disant, c'est quoi la différence entre Bubble et un autre outil? Et donc là, il y a de l'éducation à faire. Mais c'est de l'éducation qui arrive beaucoup plus tard, en fait.
Très clair. Moi, je voulais te demander maintenant, disons que j'ai envie de monter ma startup, enfin mon propre software. Est-ce que dans quel cas je devrais utiliser une plateforme comme Bubble et dans quel cas je devrais coder moi-même mon application? C'est quoi les cas d'usage pour toi qui font que l'utilisation...
Faut faire un peu attention avec ma réponse parce que je suis forcément un peu biaisé. Hein. Je suis pas. Il vaut mieux demander une tierce partie, une tierce personne. Mais je pense qu'il y a assez peu de raisons de ne pas utiliser Bubble aujourd'hui, sachant que Bubble peut être étendu par du code. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut coder à la main son application web avec son interface et l'authentification des utilisateurs, enfin toutes ces choses-là. C'est de la perte de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un problème qui a été bien résolu par nous, par d'autres aussi. D'ailleurs, il y a d'autres outils qui permettent de le faire et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et puis, s'il manque une fonctionnalité ou une connexion à un API particulier ou un morceau de logique que vraiment tu auras du mal à exprimer en Bubble par des workflows, là, tu peux le coder et exposer un API avec lequel l'application Bubble peut communiquer. Pour les gens qui sont moins techniques ou pas techniques, alors là, la question est encore plus simple parce que, ben, ils ne peuvent pas coder de toute façon. Donc, question est réglée. Mais pour les ingénieurs, un des travaux d'éducation qu'on a à faire, alors c'est un peu plus facile en ce moment quand même, parce que là, maintenant, le no-code, ça fait à peu près 4-5 ans que les gens en parlent plus, c'est effectivement de convaincre des gens relativement techniques qu'ils ont quand même de la valeur à utiliser un outil comme le nôtre, parce que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'une autre façon, la façon dont jusqu'à présent on s'est beaucoup décrit, et depuis 2012, c'est on permet aux gens qui n'ont pas accès aux outils de création de créer des choses. Quand tu t'adresses avec des gens techniques, le message est différent. En gros, on leur dit juste ça va vous prendre moins de temps et c'est moins cher parce que vous allez passer moins de temps à coder. Mais aujourd'hui, non, il y a très peu de raisons. Si vous vouliez, Si tu voulais créer un nouveau LLM, genre le prochain Mistral ou le prochain ChatGPT, y a très peu de web développement là-dessus, à part le chat, la fenêtre de chat de ChatGPT où on parle, mais c'est pas là qu'ils passent le plus de leur temps. Là, évidemment, Bubble n'est pas adapté pour ça, parce que faire des LLM, ça n'a rien à voir avec faire du développement web. Mais dès qu'il s'agit de faire une application web ou mobile pour créer un service, encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus efficace de faire ça sur Bubble et de rajouter les fonctionnalités qui manquent s'il en manque.
Okay. Et tu parlais du back-end, créer des API, donc un peu customisé avec du code si on ne peut pas le faire via Bubble directement avec les workflows. Est-ce que d'un point de vue front-end design, il y a certaines limites à Bubble et au no-code en général, ou est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite d'un point de vue design aussi?
Là aussi, on permet aux gens de créer leurs propres éléments s'ils veulent. Donc, si les gens savent développer du JavaScript et du front-end web, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Après, je recommanderais pas forcément de créer, même si j'ai vu des gens qui l'ont fait d'ailleurs, mais de créer un Super Mario ou des choses comme ça sur Bubble, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que s'il s'agit de créer un jeu de plateforme, on peut le faire. J'ai vu des gens qui le font, mais c'est un peu compliqué la façon de le faire, de mettre plein d'éléments ensemble. Enfin, c'est sans doute plus simple de le faire directement avec du code. Mais c'est pas le cas d'usage qu'on pousse le plus, qu'on voit le plus chez les utilisateurs. Mais sinon, dès qu'il s'agit de faire une application, je dirais un peu sérieuse, au sens où c'est des boutons, des cartes, des photos. Même Tinder, pour moi, c'est une application sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas une application, à part le swipe, c'est pas très innovant, en fait, sur
Interface.
les interactions. Ça doit être fait ça peut tout à fait être fait sur du no-code.
Ok, et est-ce que tu peux nous partager du coup dans la même idée quelques succès d'utilisateurs ou d'entreprises peut-être qu'on peut connaître ou pas qui t'ont marqué et qui t'ont un peu aussi prouvé que Bubble répondait à un vrai besoin et était puissant, on va dire, pour créer des outils comme ça?
Oui, bien sûr. Alors dans un contexte français, alors ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais ils existent toujours. Deux entrepreneurs français qui étaient à New York d'ailleurs à un moment. Comme ça, je pense qu'ils ont entendu parler de nous et qu'ils nous ont utilisés, parce que je pense qu'ils ont commencé vers 2018-2019, donc beaucoup plus tôt que maintenant. Mais qui maintenant sont basés à Paris, qui vendent des suppléments vitaminés, mais très personnalisés aux personnes. Donc c'est pas genre de l'e-commerce qui peut être fait sur Shopify. C'est-à-dire que c'est plus compliqué parce qu'il y a tout un questionnaire et tout. Pour faire que les trucs vite, les suppléments soient personnalisés à la personne et après gérer la logistique et tout ça. Donc, ça s'appelle Cure avec deux U, c'est deux URE. Et donc, ils sont un petit peu techniques au sens où ils ont fait une école d'ingé en France, mais ce n'est pas des codeurs, quoi. Plutôt avec un business d'opération dans des startups ou des choses comme ça, qui est un profil sur lequel on marche très bien. Les gens qui sont bien câblés pour faire les opérations d'une startup sont un petit peu techniques au sens où ils comprennent les différents API, ils savent ce que c'est, mais ils ne mettent pas forcément les doigts dans le code. C'est vraiment une catégorie de gens qui marchent très bien sur Bubble. Et donc ils se sont lancés sans code, ils ont levé des sous. Maintenant, je crois qu'ils sont profitables avec un bon chiffre d'affaires. Enfin, ça marche bien, pareil, ils grossissent bien. Notre exemple, alors ça n'a rien à voir, c'est aux Philippines, deux Philippines qui faisaient la business school aux États-Unis, qui ont lancé une sorte d'équivalent d'Alan ou d'Oscar, un petit peu, ce genre de plateforme pour offrir des plans de santé, mais à l'échelle des Philippines. Donc elles ont développé ça pour les Philippines. Elles ont plusieurs dizaines de milliers de clients maintenant, donc ça a pas mal. Elles étaient deux, maintenant elles sont 70. Elles ont racheté une petite, je dis elles, parce que donc c'est deux fondatrices non techniques, ont racheté une petite boîte d'assurance aux Philippines qui s'appelle Hive Health, qui a levé de l'argent, qui marche très bien. Et c'est vraiment pour ça, ce genre de profil qu'on veut vraiment aider. Alors après, maintenant, on a des millions d'utilisateurs et tout le monde ne fait pas des boîtes qui lèvent des fonds. Et c'est très bien aussi. Moi, je suis très content de voir des gens qui font des side businesses ou qui nous utilisent au sein de PME pour faire que leur business marche mieux. Mais quand je vois quelqu'un qui ne pouvait rien, pas, qui avait pas accès à ces outils de création, qui peut créer un business qui croit et qui aide, en l'occurrence, le secteur de la santé aux Philippines, il y a quand même pas mal de choses à régler. Enfin, ces pays-là, ça peut devenir assez cher assez rapidement. Moi, je trouve ça génial.
Ouais, c'est sûr que c'est super intéressant. Et tu nous parles pas mal de startups. Il me semble avoir lu quelque part que vous avez comme client Amazon aussi, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, mais ça c'est Amazon au sens où il y a des équipes qui nous utilisent chez eux. C'est pas
Voilà.
genre Amazon.com écrit sur nous.
Non, non, j'imagine. Mais du coup, quels sont les cas d'usage qu'une entreprise B2, une grosse entreprise, enfin B2B, B2C, peut implémenter? Est-ce que tu as des exemples de chez
Oui,
Amazon?
oui.
Une question.
Chez Amazon, c'est pas plus intéressant. Là où ce sera plus intéressant, c'est si les gens, si les auditeurs connaissent cette boîte, mais Seagate, c'est une grosse boîte américaine qui fait des disques durs. Hein. Très grosse boîte américaine qui fait des disques durs. Donc de la technologie, mais pas de la technologie au sens GAFA du terme. C'est pas très moderne, mais bon, voilà. Ils ont commencé à l'utiliser il y a 2 ans maintenant. Au début, parce qu'il y a un bubble fan en interne qui. Ils avaient besoin de développer un outil en interne. Pour gérer des commandes en interne. C'est-à-dire un système de ticketing, mais un peu plus sophistiqué que juste des tickets. Et donc, ils demandaient à l'IT de développer. L'IT leur disait d'aller se faire voir parce que ça prenait du temps et qu'ils avaient d'autres priorités. Et que l'IT est toujours en fait, un peu le bottleneck dans les organisations, toutes les boîtes. En fait. C'est pour ça que Bubble existe. En fait. C'est d'écrire du code, c'est lent. Et du coup, il y a toujours plus de demandes de logiciels ou d'applications autour d'une équipe IT. Et l'équipe IT n'arrive jamais à aller assez vite. D'ailleurs, c'est vrai chez nous aussi, c'est vrai chez Meta, dans toutes les boîtes, ce qui est lent est la création de code, malheureusement. Et c'est là où il y a une vraie opportunité. Et ceux qui arriveront à résoudre ce problème-là, et je pense que ça peut être nous, vont créer des boîtes qui vont vraiment changer le monde. Et du coup, donc voilà, ils avaient besoin. Et puis il a dit, bon, bah, il y en a marre, je vais faire ça tout seul. Alors, il a créé l'outil. Après, ça a pris pas mal de temps pour convaincre tout le monde, parce que comme c'est une boîte de tech un peu old school, il a fallu leur convaincre que d'un point de vue de sécurité et tout, Bubble allait tenir la route pour eux. Mais ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça en interne, maintenant c'est dans 3-4 équipes, donc où, pareil, ils font des outils d'interne. Donc c'est toujours à peu près ce genre d'application business, pas très drôle, mais qui aide à streamliner des process avec une équipe. Et c'est là où ça devient pour nous plus intéressant, parce que c'est là que Bubble est le meilleur, c'est qu'ils ont commencé à créer des customer portals, c'est-à-dire un portail pour que les utilisateurs, pour que leurs clients, alors en l'occurrence c'est des clients B2B, c'est pas un. On peut acheter des disques durs Seagate, mais là, ils s'adressent plutôt à des réseaux de revendeurs. Donc, c'est ça, là, les clients. Mais c'est externe. C'est-à-dire que ce ne sont pas des employés Seagate qui ont un portail où ils peuvent s'enregistrer et passer interagir avec les différentes équipes de Seagate de différentes façons. Le use case qu'on voit dans les grosses boîtes, c'est à peu près toujours le même. Et en général, d'ailleurs, avec Bubble, c'est toujours ça. C'est que l'alternative à du Bubble, c'est généralement du code. C'est-à-dire qu'on. Si quelqu'un peut utiliser Airtable pour faire ou un Google Form, à la limite, c'est à peu près la même chose, pour collecter des données, ils le font et moi je leur dirais, faites-le, parce que franchement, ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, les gens ne peuvent pas faire ça parce qu'il manque un contrôle, soit sur le design pour avoir une expérience qui est sympa. Donc pour Seagate, là, c'est quand même important parce que quand c'est customer facing, il faut quand même montrer une certaine image de boîte. On ne peut pas envoyer un Google Form quand on est une boîte qui vaut des dizaines de centaines de milliards, ça ne va pas. Ou du contrôle sur comment ça parle avec les systèmes internes, donc les bases de données en interne. Donc pour une grosse boîte comme Seagate, c'est évidemment un sujet important. Ne serait-ce que le contrôle de la logique, c'est-à-dire avec la plupart des outils, on ne peut pas dire si l'utilisateur soumet cette entrée dans la base de données, mais qu'il a tapé ça et pas ça, du coup il faut faire ci et pas ça. Enfin, c'est le genre de choses qui est assez rapidement demandant du code, sauf sur Bubble, où on peut le faire encore une fois par des systèmes de workflow sans code. On voit rarement les gens qui se disent, tiens, plutôt que de faire du Bubble, je vais faire du Airtable, c'est assez rare. C'est plutôt, ou alors je le fais avec des ingénieurs, ou alors je le fais avec du Bubble.
Maintenant, je voulais te parler d'IA. On voit aujourd'hui beaucoup de boîtes comme Devon, par exemple, qui permettent à tout le monde de créer des applications grâce à l'IA. Je voulais te demander comment vous implémentez l'IA chez Bubble. Est-ce que tu vois cette technologie comme une opportunité ou plutôt un frein à votre business model?
C'est clairement pas un frein, mais c'est une opportunité. Et pour ça, ce système de SWOT que les gens étaient après dans le business school, je pense que c'est un peu débile parce que quand quelque chose est une opportunité, c'est aussi une menace. Parce que si on rate l'opportunité, c'est-à-dire que quelqu'un va attraper l'opportunité et ça va devenir une menace pour le business. Donc, c'est pas un frein, mais c'est une opportunité et une menace. Il faut bien gérer la transition. Mais on travaille dessus, on lance quelque chose d'ailleurs d'ici un mois. Qui est assez, je suis assez fier de ce qu'on fait, ce qu'a réussi à faire l'équipe, parce que c'est assez impressionnant. On peut converser avec un bot et ça crée une application, donc assez similaire avec les outils que tu mentionnes. La raison pour laquelle même si c'est une menace pour nous, c'est plus une opportunité et je pense qu'on sera dans une super position, c'est que la combinaison LLM plus no code est bien supérieure, je pense, à LLM plus code, parce que. Le problème de LLM plus code, c'est que bon, bah, ça génère du code, et puis une fois qu'on a du code, il faut pouvoir le modifier, et pour ça, il faut savoir coder. Donc, cette idée de taper quelque chose sur un prompt et qu'on obtient une application avec du code derrière, c'est bien si on sait coder. Parce que je pense qu'il faudra toujours, et c'est pas parce que l'IA n'est pas assez intelligente, c'est plus parce que les êtres humains sont pas capables de bien vocaliser ce qu'ils veulent en langage naturel quand ils créent une application. Je pense qu'il faudra toujours faire des tweaks et des trucs. Il y aura toujours des petits problèmes, il y aura toujours des trucs où on a écrit ça, mais en fait, c'est pas exactement ça qu'on avait en tête et les utilisateurs se plaignent. Et ça prendra plus de temps d'expliquer à ChatGPT ce qu'il faut changer que de pouvoir aller directement dans l'application et la modifier. Donc, dans l'application, la modifier, ça veut dire, si on sait coder, bah, on fait ça avec du code, très bien. Et si on fait du Bubble, on peut faire ça en Bubble, ce qui est beaucoup plus facile. Donc, c'est là où je pense que, encore une fois, la combinaison Bubble plus no code est beaucoup plus excitante que LLM plus Bubble est beaucoup plus excitante que LLM plus code, à condition évidemment de bien faire, de bien exécuter. Donc pour ça, on travaille. Après, d'un point de vue un peu plus méta, je trouve ça marrant d'avoir ce genre de technologie parce que ça nous force à nous poser des questions et à réagir. C'est un peu le. Et c'est pas que pour nous d'ailleurs, c'est pour le SaaS en général. C'est un peu le nouveau truc qui fait, il y a un petit phénomène de mode et un peu une bulle hein, quand même sur l'IA, et on le voit en particulier au niveau du financement. Mais le fait est que c'est des nouvelles technologies qui permettent de faire plein de choses et qui nous forcent tous à repenser un petit peu ce qu'on fait, et c'est marrant.
Vous avez, est-ce que vous animez des communautés en interne pour vos users ou pour les sur une boîte feature produit?
Pardon?
Est-ce que vous animez des communautés sur le produit Bubble pour les tenir à jour des nouvelles features et pour vraiment
Oui,
s'assurer que le produit reste
ouais, bien sûr.
vraiment
Bah,
un peu comme
on
Notion
s'est
le cloud?
lancé. Ouais, on s'est. Alors, on s'est lancé. Donc, au début, la communauté s'est faite toute seule. Et elle se continue à se faire beaucoup toute seule. Elle est extrêmement active. Et on a quelques trucs qu'on pousse un peu. On est encore en train de réfléchir un petit peu à comment le faire. Un des challenges de ça, c'est que si tu le fais trop, avec trop de moyens, la communauté perd un peu son côté organique. Donc, il faut trouver le bon dosage. Mais oui, on le fait beaucoup. On reste très communautaire, et donc pour les nouvelles fonctionnalités en particulier, on a des councils, on a des ambassadeurs qui nous représentent sur les différentes zones. Alors, en France, il y en a un par exemple. Donc il y a pas mal de choses qu'on fait. On vient de faire une user conference où il y a des gens qui sont venus du monde entier on avait un peu plus de 500-600 personnes qui étaient à New York pour BubbleCon, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce qui était la deuxième édition. Donc on fait pas mal de choses pour ça. Et on essaie de faire plus. Je pense qu'on va pousser un peu plus le côté ambassadeur parce que l'année dernière, on a beaucoup de gens qui sont venus du monde entier pour BubbleCon. Cette année, un peu moins parce qu'il faut quand même reconnaître que le billet d'avion est assez cher et que de venir à New York une fois, les gens sont très chauds pour ça. La deuxième fois, c'est un peu plus de budget. Donc on essaie de voir comment faire des événements un peu plus délocalisés dans le monde entier.
Ok, trop cool. Maintenant, je vais revenir sur la partie business de Bubble. Parce que tu as quand même dit que vous étiez bootstrap pendant 7 ans, entre 2012 et 2019, avant le premier fonds, puis vous avez levé beaucoup de fonds. Donc, tu as un peu vu la division d'une boîte. Donc, surtout, toi, tu fais du produit. Donc, rester bootstrap, c'est quand même assez dur. Surtout à New York, où la vie quand même coûte assez cher et les talents coûtent cher. Vous étiez que deux après pendant 5 ans, mais quand même, enfin, c'est.
Bah voilà, nous on n'avait pas de talent.
Ouais, mais
C'est
quand
mauvais
même.
jeu de mots.
C'était
C'est-à-dire qu'on
vous
n'avait
les talents,
embauché
mais.
personne.
C'était coup de chier à la main New York, tu m'as compris.
Pas vraiment en fait. C'est là où il y a énormément de différence entre fondateur ou pas fondateur. Parce que quand c'est fondateur et que c'est ta boîte, t'es prêt à accepter n'importe quoi. Moi je vivais avec 2 500, 3 000 $ par mois à New York et j'étais pas malheureux. Hein. Je vivais très bien, je sortais, j'allais pas dans des restaurants très chers, mais bon, si on va pas on peut manger pas cher à New York. Donc, mais c'est parce qu'on est fondateur, c'est que quand tu es des employés, c'est plus compliqué parce que les employés sont pas prêts à faire les mêmes sacrifices. Mais pardon, je t'ai interrompu.
Non, t'inquiète pas. Non, je disais juste, du coup, tu as pu voir les deux visions d'une boîte. C'est quoi le secret pour réussir une boîte en bootstrap et en levée de fonds derrière? Parce que enfin, déjà, toi, tu es resté en bootstrap, pourquoi? Après, c'est quoi ce qui vous a expliqué, ce qui a expliqué ce shift de mentalité de se dire, OK, bah maintenant, on va lever 100 millions et on va recruter à gogo et faire plein de trucs. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a
Ouais,
poussé?
alors c'est difficile de parler du succès d'une boîte bootstrappée en fait parce que enfin une boîte bootstrappée donc c'est une boîte normale, c'est-à-dire que c'est comme ouvrir un magasin, ça se plante quand on peut plus se payer suffisamment. Donc en gros bah le secret de réussite c'est de gagner suffisamment d'argent suffisamment vite pour être en mesure de se payer soi-même ce dont on a besoin pour vivre, sachant que pour nous les 3 premières années on n'avait besoin de rien, c'est-à-dire qu'on s'en foutait de vivre sur nos économies. Au bout de 3 4 ans, bon déjà nos économies n'étaient pas infinies, loin de là. Et puis on voulait commencer à aller dans des restaurants un peu plus sympas et avoir. Moi, à 32 ans, j'avais encore des 3 roommates et on faisait la queue pour aller aux chiottes. Donc, bon, il y a un moment où on se dit, bon, ça va. Ça ne m'a pas du tout gêné pendant 3 ans. Bon, la troisième année, après 3 ans, j'étais là un peu plus. Et donc, la question, c'est est-ce que le business peut soutenir ça? Et si le business peut soutenir ça, le business est successful. C'est-à-dire que c'est vraiment la levée de fonds qui fait que le succès devient quelque chose de beaucoup plus binaire, parce que la question, c'est est-ce qu'on peut relever ou pas, ou des choses comme ça. Donc, bah, comment on fait ça quand on est une boîte bootstrappée? Bah, pas gaspiller d'argent. Donc, encore aujourd'hui, on est une boîte très lean, parce que c'est assez profondément ancré dans notre culture de faire attention à la dépense. Alors, on paye les gens bien, on paye les gens de marché, mais on ne dépense pas de l'argent de façon stupide. Et de se concentrer sur les utilisateurs qui peuvent payer. Ça, c'est le truc important, c'est qu'il y a une pression naturelle, c'est qu'à un moment, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Et s'il ne vient pas des investisseurs, il vient des utilisateurs. Enfin, il faut qu'il vienne des utilisateurs, sinon ce n'est pas possible. L'avantage de bootstrapper est que ça simplifie la vie quand même. C'est-à-dire que c'est plus compliqué parce qu'on a moins de ressources pour faire des trucs. Mais par d'autre côté, on n'a pas grand monde à qui parler. C'est-à-dire qu'on a à parler qu'aux utilisateurs. On n'a pas d'investisseurs parce que les investisseurs, surtout les angels au début, il y en a sans doute des gens très bien, hein, mais ils ont souvent des opinions quand même sur ce qu'on doit faire. Et si on trouve un investisseur ou un angel qui est extrêmement aligné avec ce que tu fais, c'est génial. Il va t'aider beaucoup ou elle va t'aider beaucoup. Mais si l'alignement n'est pas parfait, tu vas perdre beaucoup, beaucoup de temps. Malheureusement, si quelqu'un te donne 200 000 dollars ou 200 000 euros contre quelqu'un qui t'en donne 50 par mois, qui sont nos utilisateurs, mécaniquement, tu vas écouter la personne qui te donne 200 000 euros. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que dans ta liste de priorités, tes utilisateurs arrivent en dessous de tes investisseurs. Et donc, ça peut bien se passer. Je pense que quand les intérêts des utilisateurs et des investisseurs sont alignés, ça marche très bien. Typiquement, si tu veux créer une place de marché comme Airbnb ou Uber, les intérêts sont assez alignés parce que les investisseurs veulent qu'il y ait plus d'activités sur la plateforme, les chauffeurs veulent qu'il y ait plus de clients, les clients veulent qu'il y ait plus de chauffeurs. Donc tout ça marche assez bien et ça croît. Et en plus, ça coûte cher d'acquérir des chauffeurs et des usagers. Et du coup, il faut faire du marketing et tout ça. Dans notre cas, surtout dans un produit très tôt dans le produit, nous, les investisseurs, parce qu'on en a rencontré, on m'en présentait, ils voulaient, bon, bah, il faut, moi, si j'investis, moi, je veux voir des courbes comme ça, et je veux qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, nos utilisateurs qui nous faisaient confiance depuis le début, ils voulaient pas qu'il y ait plus d'utilisateurs, ils voulaient que le produit soit mieux. Et in fine, ça se transforme en plus des utilisateurs, mais c'est un coup à deux bandes, c'est-à-dire ça prend plus de temps. Et du coup, c'est là où je pense que les conflits peuvent détruire pas mal de valeur. C'est pour ça, pour nous, moi, c'était une très bonne idée de ne pas lever d'argent au début, ça simplifie la vie sur beaucoup de côtés. Après, pourquoi on a changé? Parce qu'à un moment, justement, je pense que l'alignement qui n'était pas là au début devient plus là. C'est un moment quand le produit est prêt, surtout quand tu commences à avoir une approche d'écosystème comme nous, où les gens peuvent créer des applications pour d'autres gens, les gens peuvent créer des plugins, des templates et ces choses-là. Le fait d'avoir des investisseurs qui nous poussent à faire de la croissance, en particulier de la croissance d'utilisateurs et de revenus, aide tout le monde. Parfois, il reste encore des petites choses où il peut y avoir un non-alignement, mais moins que l'inverse. Et là, du coup, et on s'est rendu compte de ça peut-être en 2018. Donc, c'est à ce moment-là, on s'est préparé pour faire une levée de fonds en 2019. Et après, il y avait un petit côté aussi intérêt personnel. C'est que bon, bah, j'avais fait tourner une boîte, parce qu'on n'était que deux au début, pendant 5 ans, mais quand on a levé des fonds, on était toujours autofinancé avec une quinzaine de personnes. Donc, c'était vraiment ce que j'appelais un small business, hein, une PME, quoi. Et à un moment, j'avais envie de découvrir ce que c'était que de faire un business qui croît plus vite. Et donc, c'est pour ça qu'on a levé de l'argent. Voilà.
Pas difficile de lever des fonds quand tu es bootstrap pendant 5 ans ou 7 ans.
Si, 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 il y a plein d'investisseurs qui ne comprenaient pas trop. Parce que les investisseurs, surtout les angels, c'est différent parce qu'eux, ils y vont plus à l'intuition et au coup de cœur. Mais les fonds, ils sont de façon très. Ils ont des cases. C'est-à-dire que le seed, c'est tant de personnes. Ils regardent des dossiers toute la journée. Donc, dès qu'on sort un peu des clous, c'est plus compliqué. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui comprenaient pas trop et qui du coup n'ont pas investi, ben, tant pis pour eux. Mais il y en a quelques-uns qui ont investi, et puis voilà. Et après, ceux qui étaient prêts à sortir un peu des clous, on avait beaucoup de choses à vendre quand même. C'est-à-dire qu'on avait déjà un produit qui tournait, on avait des revenus, on était à presque 2 millions de revenus par an à l'époque, donc c'était pas mal. Une vraie marque qui était en train d'apparaître avec une communauté forte, donc il y avait quand même beaucoup de choses. Et les investisseurs se disaient, bon, effectivement, ils n'ont pas fait les choses normalement, mais il y a un truc là. Mais encore une fois, il y en a plein qui n'ont pas voulu, et puis bah, c'est pas grave, et il y en a qui ont voulu, et tout se passe bien maintenant.
Et à ce moment-là, du coup, vous avez levé combien?
Notre première levée, c'était à peu près 6 millions et demi, 7 millions. Parce que
Okay.
c'était un gros seed, alors c'est ça le truc, à l'époque, un fonds d'amorçage, c'était plutôt 2-3 millions, donc c'est là où on sortait des cases. Il y avait des fonds qui étaient confortables avec ça, des fonds qui l'étaient moins. Et donc un fonds américain qui a investi, qui s'appelle Signal Farley, qui est basé dans la Silicon Valley. Il y avait la particularité, je pense que une des raisons qui font qu'ils ont investi, c'est qu'ils avaient beaucoup d'employés qui nous utilisaient d'un point de vue perso. Et donc les mecs disaient, mais c'est génial, il faut y aller. C'est ça qui fait qu'ils sont sortis un peu de dire, bon, bah, c'est pas grave, ça fait pas la taille qu'on fait d'habitude, quoi.
Est-ce que tu peux partager
Pardon?
est-ce que tu peux nous partager les métriques sur Bubble? Du coup, vous étiez 15, vous avez 2 millions d'ARR. Enfin, c'est quoi ce qui vous a poussé à lever vers des VC versus un fonds de PE? Parce que du coup, c'était quand même une PME.
Bah non, parce que enfin, c'est des modèles différents. C'est-à-dire qu'un fonds de VC, ils investissent pour la croissance. Le fonds de private equity, ils investissent pour faire de la productivité, de la rentabilité, pour payer la dette. Enfin, c'est juste un type d'investissement différent. Puis c'est trop petit pour un fonds de private equity. Enfin, parfois, il y a des fonds qui achètent des toutes petites boîtes pour les faire tourner, pour les consolider. Mais nous, c'est pas ce qu'on vendait. Non, non, parce que même si on n'avait pas levé d'argent pendant 7 ans, depuis le début, on se dit, on va créer la plus grosse boîte du monde. C'est des choses qui. Ça paraît bizarre d'entendre ça, parce que quand on dit ça, les gens se disent, ça veut dire qu'ils veulent lever de l'argent. On s'est jamais dit qu'on ferait autofinancer toute notre vie de la boîte. Bon, la question, c'était quand est-ce qu'on y va? D'ailleurs, on l'a fait trop tard. Je pense qu'il aurait fallu le faire plus tôt, en 2015-2016. Mais bon, c'est pas très grave. Ça n'avait pas de sens d'aller voir des fonds de private equity pour leur dire, we're gonna take over the world, donnez-nous 5 millions et on vous vend la boîte et on fait de la productivité. C'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'aller voir un fonds de venture, des VC, de leur dire, on fait un premier tour, voilà ce qu'on veut faire, et puis on en fera un deuxième après, et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que ça n'avait pas beaucoup de sens d'aller voir un fonds de private equity.
Et qu'est-ce que ça change? Tu nous as parlé pas mal du fait que tu devais rendre des comptes, etc. Mais qu'est-ce que ça change dans la tête d'un entrepreneur et dans ta tête surtout quand tu as d'être une boîte bootstrap, croissance, on va dire organique, chaque utilisateur, tu as été chercher un par un, à je lève 6 millions, j'imagine du coup, vous avez fait pas mal de recrutement. Qu'est-ce que ça change dans ta, au jour le jour?
Bah, tu vas réfléchir aux prochaines étapes de façon différente. C'est-à-dire que quand tu es bootstrappé, la prochaine étape, c'est le prochain utilisateur, c'est le prochain de croître le revenu de temps, des choses comme ça. Quand tu lèves des fonds, tu continues, évidemment, heureusement, j'ai envie de dire, à réfléchir comme ça, parce que si tu y a des, je pense qu'il y a des fondateurs qui oublient ça et les boîtes se finissent, ça se passe pas bien. Mais il y a aussi un autre truc auquel il faut réfléchir, c'est la prochaine levée de fonds. À un moment, parce que par définition, quand on lève des fonds, à moins d'atteindre la profitabilité. Mais généralement, ça ne se fait pas après le seed. Si on fait un seed, si on avait fait notre fonds d'amorçage de 6 millions pour devenir profitable, ça aurait été un peu bizarre. C'était un peu pourquoi s'emmerder? Parce que tu te crées des problèmes avec des investisseurs. C'est-à-dire qu'à un moment, les investisseurs vont vouloir sortir. Donc, il faut pouvoir leur permettre de sortir. Et donc, ça t'impose, ça te rend dans l'obligation d'offrir de la liquidité, comme on dit. Donc, c'est de vendre la boîte ou de racheter leur part. Enfin, c'est compliqué. Et donc, ça aurait été un peu bête de faire un seed pour devenir profitable. Donc, généralement, les gens ne font pas ça. Donc, nous, ce n'était pas notre objectif. Et donc, par définition, on va dépenser plus d'argent qu'on gagne, parce que c'est le but de faire une levée de fonds. À un moment, il faut retrouver des fonds pour continuer à faire ça, à moins de devenir profitable. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Et donc, ce que ça change vraiment, c'est que ça commence à mettre une certaine pression de dire, bon, bah, voilà le genre de métrique qu'il faut avoir bah, par telle date ou des choses comme ça pour pouvoir relever des fonds. Et ça change comment le fondateur ou le CEO gère la boîte. Et ça va changer aussi pas mal un peu la culture, parce que c'est un peu plus de pression pour tout le monde. Et nous, la transition entre le bootstrap et le VC-backed, comme on dit, donc financé par des fonds de VC, a été un peu délicate, un peu désagréable pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, franchement, le changement, en particulier des ingénieurs qui nous avaient rejoints en disant, ici, on fait ça tout à notre rythme, un peu l'art pour l'art, qui faisait que par certains côtés, on faisait des trucs mieux aussi, parce qu'on avait plus de temps. Et on leur dit, ouais, on fait l'art pour l'art, mais par contre, là, il faut quand même qu'on a un peu des pressions qu'on veut avoir. Et tous les trimestres, il faut qu'on croise de temps des trucs comme ça, et qui n'ont pas aimé, qui sont partis. Et du coup, on a embauché d'autres mondes, d'autres gens. Il y a un autre type de gens j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui écoutent les podcasts qui sont peut-être dans cette catégorie-là, qui trouvent ça très excitant d'être dans des boîtes qui, justement, il y a un peu plus de pression à court, moyen terme, avec une grande vision de long terme. Parce que ça, c'est quand même, je pense, le truc intéressant de rejoindre une startup comme la nôtre, c'est de se dire qu'à 10 ans, voilà ce que ça peut représenter. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Mais ça attire pas mal de gens qui sont, pour la plupart, il y a des gens très bien, plutôt smart et dynamiques et qu'on peut attirer. On a remplacé quelques personnes. Mais bon, dès qu'on fait ça, c'est un peu douloureux parce que quand on est 15 et qu'on perd 4 personnes, bon, c'est quasiment 20% de l'équipe, hein, c'est quand même beaucoup. Alors, les 4 qui sont partis, ça ne s'est pas fait la même semaine. D'ailleurs, ce n'est même pas nous qui. Alors parfois, c'était un peu mutuel, mais il y en a qui sont juste partis de leur plein gré. Ça s'est fait au fil du temps. Mais ce qui était sans doute une erreur, je pense qu'il aurait fallu que le faire plus vite, plus tôt, de notre côté. Mais ça, c'est l'erreur que font tous les managers de prendre trop de temps avant de se séparer avec les personnes qui ne marchent pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, ça a été un petit peu traumatique au début, surtout que ça arrive après un high émotionnel de la levée de fonds. Et donc, de gérer les 6 mois suivants n'était pas forcément évident. Mais bon, l'organisation s'adapte et puis après, on repart. L'avantage de levée de fonds, c'est que c'est un peu un reset à chaque fois. Donc, après la grosse levée qu'on a fait en 2021, pareil, c'était un reset assez sympa. Là, on n'a pas refait de levée, mais bon, le marché a un peu changé. Donc, il y a moins de levées qui se font en ce moment.
D'accord. Et comment tu vois le futur de Bubble? C'est quoi ta vision pour les 2 prochaines années, 5 prochaines années ou même 10 prochaines années?
Voilà, les deux. C'est la première fois en fait depuis 12 ans qu'on a vraiment un nouveau produit qui sort, donc le mobile, donc le fait de pouvoir générer des applications mobiles. Donc ça, il ne faut pas rater ce lancement-là. Pour l'instant, on a déjà des apps qui tournent dans l'App Store, c'est du vrai natif, c'est pas de l'hybride, donc ça marche très bien, mais bon, il faut quand même que ça scale. Donc ça, d'ici les 2 prochaines années, c'est vraiment arriver sur ce nouveau marché et bien le lancer et faire que ça marche bien et que les gens voient la valeur de faire du mobile et du web ensemble. Parce qu'on sera la seule plateforme qui permettra de faire le web et le mobile avec un back-end. Il n'y a pas d'autres plateformes sur le marché qui font ça comme on le fait. Et le deuxième truc qu'il ne faut pas rater, c'est l'IA. C'est-à-dire que j'ai dit que j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse juste parler avec une machine et puis ça va faire le code et qu'il n'y aura jamais besoin de regarder le code, de trucs comme ça. Mais les technologies s'améliorant, et encore une fois, ce qui est une opportunité est aussi une menace. Et donc, il ne faut pas rater ça, sinon la menace va être trop dangereuse. C'est essentiellement ces deux choses-là. Si on fait ces deux choses-là bien dans les 2, 3 prochaines années, la croissance sera là. Je pense qu'on a encore. On pourrait être 100 fois plus gros que ce qu'on est aujourd'hui. Pas forcément en taille d'employé, parce que je pense que c'est important de rester petit et que la beauté de la technologie, il n'y a pas besoin de beaucoup d'employés pour servir beaucoup de monde. Mais en termes de nombre d'utilisateurs et de revenus aussi, je pense qu'on pourrait être au moins 100 fois plus gros. Alors, je ne pense pas qu'on sera 100 fois plus gros dans les 3 prochaines années. Enfin, si on fait ça, ça serait une belle croissance. Mais par contre, les 2, 3 prochaines années, c'est vraiment comment préparer le passage à l'échelle pour être beaucoup plus gros. Et ouais, c'est le mobile et l'IA, quoi.
Et tout ça des États-Unis. Tu comptes pas établir une stratégie dans d'autres
Non,
pays?
alors c'est difficile de. Non, on n'est pas un business. On a une équipe de vente qui fait un peu de vente avec des plus grands comptes et surtout des startups en fait qui se sont lancées sur nous et qui à un moment ont besoin de passer sur une solution custom. Et là, on a des ventes. Mais c'est essentiellement nous du marketing et des gens qui vont venir sur notre site. Donc, on a plein de gens en France qui viennent sur notre site sans qu'on ait une entité en France. Tu vois, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui payent dans 100 pays. Donc, on est effectivement dans 100 pays. Après, on n'a pas 100 bureaux et on n'en a pas vraiment besoin. Pour vous dire, donc, les États-Unis, c'est peut-être 35% de revenus. Donc, c'est très faible, en fait, pour une boîte basée aux États-Unis. Après, c'est Brésil qui doit être à 8, Royaume-Uni, France qui doivent être à 6 ou un truc comme ça. Donc, c'est très fragmenté. Donc, après, est-ce qu'il faut qu'on ait un bureau en France? Oui, moi, j'aimerais bien parce que ça ferait des excuses pour rentrer. On y avait pensé en 2021, 2022, après la levée de fonds, mais avant que le marché commence à se calmer avec la hausse des taux d'intérêt. On y avait pensé parce qu'on avait beaucoup de mal à embaucher des ingénieurs aux États-Unis. Et en France, je pense que, enfin, on a un bon pool d'ingénieurs en France. Puis, ayant fait le genre d'école qu'il faut, je savais à peu près où aller pour trouver des bons. Et on a une marque en France qui nous aurait permis de recruter. Après, le coût est quand même qu'on a une sous-culture. Dans une langue différente, avec un décalage horaire qui n'est pas rien, 6 heures, c'est quand même pas rien pour travailler ensemble. Et du coup, on hésitait, mais on se posait la question. Puis après, la crise, hein, ou le coup de froid, disons, sur le marché est arrivé, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de recruter aux États-Unis des ingénieurs. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, ça vaut peut-être pas le coup de prendre ce risque culturel. Ce que je peux dire, c'est que si un jour on ouvre un bureau en Europe, ce sera forcément à Paris, parce que je suis français et que j'adore la France et que je rentre un peu. Moi, personnellement, je rentre un peu tout le temps. Hein. Je rentre toutes les quelques. Enfin, j'adore rentrer. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous bloque dans notre développement. Là où ça pourrait devenir intéressant, c'est si ce qu'on appelle la sell assisted motion, c'est-à-dire que les gens qui commencent par nous utiliser par l'équipe de vente. Si ça croît fort et qu'on a besoin de gens qui travaillent aux heures françaises en français, donc dans ce cas-là, plutôt que de demander à un francophone à New York de se lever à 3 heures du matin, autant le mettre à Paris. Et puis ça permet de rencontrer les clients, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas encore un sujet pour nous.
D'accord, très clair en tout cas. Et juste pour conclure, quel conseil tu donnerais à un jeune qui sort d'école aujourd'hui et qui aimerait entreprendre, ou au jeune Emmanuel qui est sorti de Polytechnique et qui s'apprête à rentrer chez Roland Berger? Quel conseil tu pourrais lui donner?
C'est deux questions différentes. Si quelqu'un ne sait pas qu'il veut entreprendre, je dirais, et c'est pas évident, c'était pas évident, et en business school encore plus, mais en école c'est un peu moins, mais prendre son temps avant de choisir un job et ne pas choisir un job parce que tout le monde en école dit que c'est le bon job à prendre. C'est-à-dire que, et ça je l'ai beaucoup vu, et moi aussi, enfin, j'ai passé d'entretien avec Morgan Stanley quand j'étais en business school parce que tout le monde passait d'entretien avec Morgan Stanley et j'ai eu une offre et. Heureusement, je ne l'ai pas pris, mais à un moment, je me dis, bah, tout le monde dit, ouais, c'est génial, tu devrais la prendre. Et je pense que c'est difficile. À un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti, on avait le winter break, donc c'est un mois de vacances où j'avais fait un petit peu de trucs avec des camarades de business school, mais pas trop, alors que j'ai des copains qui avaient fait que ça pendant un mois, ils étaient tous ensemble et tout. Et donc, de pas être, je suis parti en Chine, en fait, pour voir des amis. Et du coup, de partir tout seul, fait que je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. Mais ça demande un peu d'effort de réaliser qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Surtout quand tout le monde autour de soi dit qu'il veut le faire. Et la plupart, pour les mêmes raisons, c'est une situation de théorie déjà un peu bizarre. C'est que je pense qu'il n'y a pas tant de monde qui sont passionnés par le M&A. Mais il se trouve qu'en école de commerce, tout le monde parle de M&A, donc tout le monde pense que c'est génial de faire du M&A. Mais en fait, individuellement, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui adorent, hein, et d'ailleurs, c'est eux qui arrivent MD et qui sont heureux à la fin, mais c'est pas pour tout le monde. Et donc, ouais, non, au moment de choisir un job, d'essayer de pas trop parler à ses amis, en fait. C'est ça que je dirais comme conseil à quelqu'un qui sort d'école. Après, entreprendre, donc si quelqu'un sait qu'il va entreprendre, ce qui est pas pour tout le monde, hein, quand même, l'entrepreneuriat, ouais, ça s'est bien passé au bout de 12 ans, mais genre, c'est quand même une vie un peu dure, hein. Il y a quand même pas mal de challenges. Les conseils que j'aurais sont des conseils assez évidents, mais qui sont vrais, c'est-à-dire écouter les utilisateurs. J'essaie de voir si j'ai quelque chose d'un peu plus
Deep.
différent à dire.
Un
Pardon?
peu plus deep.
Se demander s'ils sont prêts à faire l'idée qu'ils ont, ils veulent lancer, s'ils sont prêts à la pousser pendant 5 ans sans salaire. Et s'ils ne sont pas prêts, il faut pas le faire. Alors après, évidemment, sans salaire, si les gens n'ont pas d'argent, ils ont bien mangé, mais donc pas un beau salaire, pas avec un succès médiatique ou financier évident, payer un peu plus du SMIC ou un truc comme ça. En gros, la question, c'est est-ce qu'ils sont suffisamment passionnés par leur idée pour pouvoir être prêts à le faire sans reward financier ou médiatique? Parce que y a des exceptions, hein. Il y a des Snapchat qui marchent très bien tout de suite et tant mieux pour eux. Mais la plupart des boîtes, c'est pas comme ça. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes au début. Il y a quand même beaucoup de moments où ça n'a pas marché. Il faut vraiment être passionné par son idée. Nous c'était vraiment notre cas. J'ai toujours une passion profonde pour ce qu'on fait et je l'ai fait sans salaire pendant plusieurs années. Et si quelqu'un veut lancer une boîte parce que si ça marche, c'est cool, ça peut arriver, mais si ça n'arrive pas, ça veut dire que la personne va se sentir mal sur la route et généralement, c'est là qu'elle va se plaindre.
Ok. Et du coup, d'un point de vue peut-être un peu plus personnel, mais pareil, ça donnera des conseils pour les auditeurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais peut-être différemment? Tu nous as parlé d'un truc, c'était que tu as levé peut-être un peu tard, mais à part ça, est-ce que il y a des choses que tu ferais différemment, des erreurs que tu as commises que les auditeurs pourraient.
Ouais,
Pour ta carrière aussi.
deux,
Pas que sur le
deux,
général, sur toute ta.
ouais, deux, ouais. Alors en général, de ne pas m'écouter assez suffisamment mes instincts, et pourtant, je pense que je le fais pas mal, mais pas assez. C'est que il y a beaucoup d'intelligence dans le ventre, en fait. Et quand quelque chose, on ne le sent pas, il faut pas y aller. Parce qu'en fait, le cerveau a tendance à rationaliser les choses et à combattre certains trucs. En anglais, ça sonne mieux parce qu'en anglais, on parle de in your gut. Le gut, c'est vraiment la flore intestinale. En français, il n'y a pas vraiment de mot pour ça, mais je pense qu'il faut écouter ses instincts, c'est important. Et après, de création de boîte qui est liée à ça, d'ailleurs, je l'ai dit très vite, mais une des erreurs que tout le monde fait, et donc c'est pas très innovant pour moi de le dire, mais je vais quand même le répéter, c'est que quand quelqu'un n'est pas le bon fit sur une équipe, il faut faire ce qu'il faut faire et faire partir la personne. Parce que le coût d'un mauvais recrutement, d'une mauvaise personne sur une équipe, quand c'est une toute petite équipe d'une dizaine de personnes, ou même aujourd'hui on est 150, et si quelqu'un n'est pas le bon fit, il y a quand même un vrai coût, parce que Il y a un rayonnement, chaque personne à 150 et même à 10 000 d'ailleurs va rayonner sur certaines autres personnes et influencer les gens autour. Il faut pas tolérer les choses. Et c'est là où ça revient un peu l'instinct, c'est que généralement, c'est le genre de décision qu'on a dans son instinct. On a un sentiment intuitif sur est-ce que quelqu'un va marcher ou pas sur le long terme de la boîte, beaucoup plus que si on commence à rationaliser avec le cerveau, parce qu'on peut toujours trouver des excuses pour lesquelles ça n'a pas marché. On peut toujours dire, mais 3 mois plus tard, ça ira un peu mieux, et tout comme ça. Et dans les faits, si on sent quelque chose ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Donc, il faut arrêter le plus vite possible.
Des bons
Le
conseils.
truc que je dirais, c'est qu'on a la chance quand même d'être dans une industrie où, quand on se sépare de quelqu'un, cette personne va retomber sur ses pas très vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on
Ouais.
travaille pas dans une industrie où, quand on vire quelqu'un, il perd sa maison, ses enfants mangent plus. Enfin, on travaille quand même avec une partie de la population qui est quand même très jeune, très flexible et qui retrouvera du boulot. Donc, il faut, c'est ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Le patron d'une usine qui fait des plans de licenciement, c'est quand même beaucoup plus dur. Hein.
On a reçu Olivier Paillès de Aircall qui nous a raconté quand il était chez ArcelorMittal, c'était pas pareil.
Ben
Pendant
voilà, donc c'est
<'est>
ça.
la crise 2008, c'était.
Et par certains côtés, après, il y a d'autres inconvénients. C'est-à-dire que du coup, les employés qu'on a peuvent être aussi un peu plus pénibles de l'autre côté parce qu'ils ont cette flexibilité et que du coup, c'est plus difficile de les faire travailler comme on veut. Donc,
Ouais.
c'est pas juste plus simple. Ils sont beaucoup mieux payés aussi. Enfin, il y a plein de différences. Mais ça rend, moi souvent, quand je parle avec des CEO, des trucs comme ça, je dis, ouais, mais c'est pas sympa et tout. Je dis, mais. C'est pas grave, la personne va retrouver un boulot dans le mois. Hein. On est quand même sur un pool de talents où les gens retrouveront toujours. Et qu'en fait, ça rend service à tout le monde si ça ne marche pas. Parce qu'in fine, si ça ne marche pas, c'est que ça ne marchera pas à un moment, donc il faut arrêter.
Ok, bah, beau conseil et tout. Écoute, merci beaucoup Emmanuel. Juste pour terminer, une dernière note, est-ce que tu as un livre, un podcast, une série, un film que tu recommandes pour nos auditeurs qui t'a marqué?
Philosophe.
Ouais, c'est un peu pointu, hein, mais Antoine Bloyer de Paul Nizan, qui est l'histoire de quelqu'un qui se rend compte que la société, c'est dans un contexte totalement différent, c'était très communiste des années 20, que tout ce que la société lui avait fait croire qu'il devait espérer était en fait pas ce qu'il voulait. Et c'est son voyage pour se réaliser ça. C'est un bouquin qui m'a beaucoup transformé.
Ok, c'est de Paul Nizan du coup, ça.
Polynésien, Antoine Bloyer.
Ok, je
C'est un peu
note.
pointu, hein, c'est pas pour tout le monde. Enfin,
Ça,
si, c'est pour tout le monde, mais c'est pas un bouquin que tout le monde connaît, quoi.
c'est pour tous les entrepreneurs parce que du coup, c'est un
Non,
peu.
mais moi, je lis pas beaucoup de bouquins de business.
Ok.
Pas plus mal. Ok, merci beaucoup Emmanuel. On va un peu
Merci
long.
beaucoup Emmanuel.
Merci.
C'est super, j'espère que tu as passé un bon moment. Et. J'étais aussi un peu introspecté sur toi. C'est toujours sympa de faire ça quand on fait un podcast. On se pose
Ouais,
un
non,
peu.
c'était cool, c'était une bonne conversation.
Donc voilà. Merci beaucoup.